Chapitre 4. Vendredi 7 octobre 1880, quelque chose. Je m'éveille après des rêves confus. Je m'habille, la tête inquiète, pour aller à ce cimetière. Dans mes malles, j'ai rapporté ici un de ces costumes turcs très brodés que les hommes du peuple mettent les jours de fête. Pauvre relique un peu fanée de notre temps d'Eyoub. Je le portais dans notre logis, dans notre quartier, le soir. Aziadé m'avait fait jurer aussi que je reviendrais avec ce costume-là, qu'elle le reverrait, et depuis des années, je m'étais dit que je le reprendrais même pour aller visiter sa tombe au cimetière. Puis, quand je suis ainsi vêtu, une hésitation me vient. Cette veste d'Orient, qui m'était familière jadis, me fait aujourd'hui un effet de déguisement et de triste mascarade. Pourtant, je voudrais la garder, comment faire? D'abord, je la dissimule sous un banal pardessus de couleur neutre, que je remplace ensuite par un manteau de voyage encore plus long, m'enveloppant jusqu'aux guêtres dorées. Bien puéril tous ces détails d'accoutrement quand il s'agit d'un pèlerinage funèbre dont l'appréhension vous trouble jusqu'au fond de l'âme. En bas, il y a un grand landau attelé que j'ai commandé la veille pour que les vieilles femmes puissent y prendre place à côté de moi, et je me mets en route par un beau soleil pur qui a un air de joie. Il faut faire un long détour et passer par des rues en pente dangereuse pour aller en voiture à cette place d'Al-Jihali où elles m'ont donné rendez-vous. Kassim Pacha étant un faubourg en contrebas, séparé de Péra par les fondrières des Champs des Morts. Cependant, nous arrivons, car voici l'antique petite mosquée blanche et ses cyprès noirs. Sur la place d'Al-Jihali, j'aperçois deux femmes qui m'attendent, rien que deux, Adrakar Shiraz et sa sœur Hartmet. La troisième, Khalidja, la plus désirée et l'essentielle, mais pourquoi donc n'est-elle pas là? Les deux autres, en me voyant paraître, font un geste de consternation. « Qu'y a-t-il encore, mon Dieu? A-t-elle refusé de me voir, ou bien est-elle morte? Et alors ce serait fini. J'échouerais au port, et pour jamais, personne au monde ne saurait plus me conduire. J'ai le temps de me dire tout cela en quelques secondes d'anxiété haletante, tandis que je saute à terre et que je cours à elle pour les interroger. » « Non, répond-elle, ce n'est rien de si grave. Mais la pauvre vieille est infirme depuis l'hiver dernier, clouée sur un grabat, incapable de faire un pas. Et aucune voiture ne pourrait arriver dans le quartier qu'elle habite, tant les chemins y sont roides et étroits. D'ailleurs, à quoi bon serait-elle venue de ce côté-ci de la Corne d'Or, puisque c'est, a-t-elle dit, sur l'autre rive qu'elle la tombe, du côté de Stamboul, mais très loin, en dehors des murs, dans la campagne. En dehors des murs de Stamboul, c'est là qu'on l'a mise. Oh, combien cette idée me serre le cœur davantage. Et je me représente tout à coup cette région désolée, faite de landes et de bois de cyprès, qui s'étend au pied des vieux remparts immenses, depuis le Fanar jusqu'aux sept tours. Tout ce funèbre désert d'une dizaine de kilomètres de longueur où l'on enterre au hasard les morts obscurs. C'est là qu'on l'a mise. J'en avais eu quelquefois la frayeur, sans toutefois pourtant y arrêter ma pensée. Non, plutôt je cherchais à me la figurer, dormant dans quelqu'un de ces cimetières délicieux de Scutari ou des bords du Phosphore. Et comment découvrir là-dedans sa chère petite tombe? Si cette Khadija, qui est seule à la connaître et qui sans doute n'a plus longtemps à vivre, ne peut venir aujourd'hui même à n'importe quel prix me la faire voir. Une fois de plus, j'ai l'angoisse de sentir le fil conducteur s'échapper de ma main, l'angoisse de chercher un expédient quelconque, toujours avec cette même hâte enfiévrée et de n'en trouver aucun. À la fin, une idée m'est venue, et j'appelle le cocher grec qui m'a conduit. Ce conciliabule sur cette place, cet étranger, cette voiture, sont des choses étonnantes pour les gens de ce quartier immobile, et derrière des grillages de fenêtres, quelques perdus commencent à se montrer. Voici, oh, je me suis souvenu que les chaises à porteurs, il y a 10 ans, étaient encore en usage à Péra. J'avais vu à cette époque, les soirs de pluie, des actrices ou des chanteuses se faire reconduire ainsi à leur hôtel. Ce cocher, qui a l'air intelligent, saurait peut-être m'en trouver une tout de suite et me la ramener ici même, avec une relève de brancardier. Une pièce d'or en a compte, une autre après pour sa peine, s'il m'a procuré tout cela avant une demi-heure. Et il part, l'air sûr de son fait, fouettant ses chevaux. Encore une de ces attentes incertaines, comme celles qui ont coupé si souvent ma journée d'hier. Dehors, sur une pierre, je m'assieds entre les deux femmes. J'enlève mon manteau gris, qui est plus étrange dans ce quartier que ma veste orientale. Alors, ces broderies de mon costume, jadis choisies par elles, se remettent, après tant d'années, à briller à leur lumière d'autrefois, devant le suaire de chaux des mêmes vieux murs, et là, dans la blanche petite rue ensoleillée, solitaire, je me sens heureux, avec mélancolie, d'avoir repris pour un moment l'aspect de quelqu'un du peuple d'ici. 30 ou 40 minutes se passent dans une attente silencieuse, les deux femmes en robe noire assises, la tête dans les mains, l'une à ma droite, l'autre à ma gauche, comme des pensées de mort qui auraient pris forme humaine. Et enfin, là-haut, au sommet d'une montée qui domine ce quartier d'Al-Jali, apparaît, profilé sur le seuil, le landau qui revient au pas, suivi de la chaise et des porteurs. « Qu'on fasse vite, vite, que la voiture m'attend ici avec un Akhtar Shiraz, 1 heure, 2 heures, tout le temps qu'il faudra, et que la sœur d'Ahmed, les porteurs, la chaise, descendent avec moi jusqu'à la Corne d'Or, où nous louerons un grand caïque pour passer à Stamboul. » À Stamboul, nous débarquons dans le sombre fanar à l'échelle la plus voisine du quartier de Khadija, puis nous grimpons par des rues en escalier entre des murailles délabrées et croulantes, très regardées par les rares passants qui se retournent d'un air d'inquiétude hostile. Dans un taudis sans nom, dans une soupente noire, Khadija est étendue sur des logs horribles, geignant faiblement comme une pauvre bête malade. Mais c'est bien elle, et je crois qu'aucun visage ni aucune chose revue à Constantinople ne m'ont impressionné comme cette vieille figure noire, où il y a de la malice de singe agonisant et de la tendresse suppliante, je ne sais quel mélange d'animalité qui se décompose et de bonne âme fidèle qui s'en va. En approchant, j'avais peur de ses reproches et de sa colère. Mais l'explosion de tout cela s'est passée hier, quand la sœur d'Ahmed a prononcé mon nom. Après, elle m'a pardonné parce que je suis revenu. Je n'entends pas le terrible « Hulu, Hulu » ni la malédiction dont j'avais su le pressentiment cruel il y a 10 ans, quand j'ai écrit le chapitre final d'Aziyadé. Au contraire, elle me tend ses pauvres mains noires, ridées, tordues, effrayantes. Malgré toutes les distances, nos yeux se pénètrent et se comprennent. Elle pleure et, en la regardant, je sens que des larmes me viennent aussi. Elle est la dernière des dernières, négresse esclave de naissance, à présent débris à peine humain, qui finit de misère sur un fumier et je me penche sur elle avec une pitié tendre, et je crois que sans grand effort, je lui donnerais un pieux baiser. Certainement, dit-elle, elle se lèvera malgré son mal. Elle se laissera conduire, emporter. Elle fera tout ce que je voudrais, au risque d'en mourir ce soir, heureuse, au-delà de ce qu'elle aurait su demander pour son ciel, heureuse du rôle qu'elle va jouer entre vers sa maîtresse et moi. Heureuse de cette suprême visite inespérée qu'elle va faire à sa tombe. Et ses larmes coulent sur le noir de ses joues, des larmes de joie qui la transfigurent. Mais voici qu'une difficulté imprévue surgit. Les porteurs, maintenant, qui se prennent de dégoût et qui ne veulent plus enlever ça dans leurs bras, asseoir ça dans leurs chaises, qui est garni de velours neuf, ah non, jamais. Eux sont d'élégants porteurs, aux costumes brodés, qui ne s'attendaient point à être dérangés pour une telle besogne, et ils refusent. D'ailleurs, je réfléchis qu'elle se refroidirait mortellement, cette pauvre vieille, presque nue, une fois retirée des loques immondes qui sont entassées sur son corps. Mais je me rappelle avoir vu dans le quartier, en passant, de belles couvertures de laine d'une couleur orange, à l'étalage d'une petite boutique de juifs, et je pris la sœur d'Achmed de courir en acheter une. J'y mettrai la main avec elle, à nous deux, nous nous envelopperons en Khadija là-dedans, et les porteurs pourront après l'enlever sans effroi. Un quart d'heure de perdu encore à cette toilette qui semble un ensevelissement. Enfin la vieille femme, enveloppée, enroulée dans la laine épaisse et neuve, est assise sur la chaise de velours, souriant, malgré sa douleur et son chagrin, de tout ce luxe inconnu jusqu'ici dans sa vie. Et nous partons, prenant congé de la sœur d'Achmet, avec serment de main et des remerciements. Au départ, Khadija, redevenue très vivante, a, d'une voix nette, donné ses ordres et indiqué par quelle porte de Stamboul il faudra sortir. La matinée s'avance, je loue un cheval en route et je commande au porteur de courir. Des enfants qui voient passer grand train cette chaise escortée par ce cavalier doré comme un kavas de pacha, regardent par les lunettes le carne de verre pour voir la belle qu'on emporte là-dedans, si vite et puis s'épouvante de cette figure de guenon noir. Toutes ces agitations, tous ces empressements m'ont fait perdre de vue le but de la course. Et puis il y a le plaisir physique d'être sur ce bon cheval jaune que le hasard m'a procuré, le plaisir de fendre l'air vif et pur un beau matin de soleil. Et encore une fois, l'oubli vient. Je trotte, le cœur presque léger, m'intéressant aux choses singulières et grandiosement tristes de l'entour. Nous cheminons longtemps au milieu de ces quartiers presque inhabités, presque en ruine, qu'on appelle le vieux Stamboul. Puis enfin, la gigantesque muraille crénelée qui enferme tout cela nous apparaît. Nous en sortons par d'antiques portes ogivales qui se succèdent en voûtes obscures, et nous voici dans la campagne, dans le désert des tombeaux. Derrière nous, ces remparts que nous venons de franchir semblent l'enceinte de quelque colossale ville abandonnée. Invraisemblablement haut, hérissé de dents pointues, flanqué d'énormes tours, ils s'en vont sur notre droite, sur notre gauche, indéfiniment pareils, se perdre dans des lointains désolés. En avant, c'est l'interminable région des sépultures, lande d'un gris roux avec çà et là des bouquets de cyprès noirs qui montent comme des flèches d'église. Un peuple de tombes couvre ce sol. Pierres debout qui sont de tous les âges, de toutes les époques de l'histoire. Cette terre aride est pleine d'ossements de morts. Jadis, quand j'habitais Ayoub, je venais rarement de ces côtés. Une fois, cependant, nous y avions fait une promenade en plein jour, elle et moi, une après-midi de décembre, choisissant ce lieu parce qu'il était plus désert. Et tout près d'ici, je m'en souviens, un petit oiseau, qui sans doute se trompait de saison, nous avait chanté pour nous seuls un air de printemps sur la branche d'un de ces cyprès. Ensuite, un peu plus loin, là-bas, nous avions vu enterrer devant nous une si jolie petite fille, qui doit être en poussière aujourd'hui. Oh, cette promenade sur l'herbe rase et les marguerites d'hiver! La seule que nous ayons jamais osé faire ensemble à la lumière du soleil, comme je me le rappelle tout à coup d'une manière déchirante. Et maintenant, je recommence à avoir la pleine conscience de tout ce qu'il y a d'infiniment mélancolique dans notre course. La pensée que je m'approche d'elle, des débris qui ont été son corps, me fait passer de grands frissons glacés. Et je sens revenir cette impression physique qui est particulière aux heures de deuil. Cette impression d'avoir les tempes, la poitrine, serrées peu à peu, de plus en plus dans des étaux de fer. Je regarde autour de moi les tombes les plus rapprochées, aussi les plus lointaines, cherchant et interrogeant des yeux les moins vieilles, celles qui sont restées un peu blanches et où brille un peu d'or, celles qui n'ont pas encore pris l'uniforme teinte gris-roux de l'ensemble de tout cet immense ossuaire. Depuis bien des années, j'avais prévu deviner cette promenade funèbre, tout ce qui est réel aujourd'hui, mais je n'avais jamais imaginé que cela se passerait dans cette région de suprême abandon où nous sommes. Non, je ne m'attendais pas à ce qu'il me faudrait venir la chercher parmi ces confuses peuplades de morts. Vraiment, je souffrirais moins de la savoir ailleurs qu'ici, perdue au milieu de tant d'autres qui n'ont même plus de nom, même plus de pierre. Khadija fait obliquer ses porteurs sur la gauche, et nous longeons maintenant l'écrasante et interminable muraille crénelée dans la direction des sept tours, marchant sur un sol dénudé qui a un air maudit. Nous devons approcher car elle a frappé de sa vieille main noire contre la vitre de sa chaise pour faire signe d'aller doucement, et je la vois qui regarde, les yeux dilatés, qui cherche. Même elle a l'air d'hésiter maintenant, et moi je tremble. Ah, elle a dû la voir car elle arrête ses beaux porteurs d'un geste de commandement. Par ici à droite, sur cette espèce de monticule où il y a une dizaine de pierres debout, c'est là. Dans le nombre, il y a trois ou quatre tombes de femmes que je distingue du premier coup d'œil. Des bornes peintes en bleu ou en vert avec des inscriptions et un couronnement d'étranges fleurs jadis dorées. Mais laquelle ? Elle s'est fait descendre, la pauvre vieille, branlante, les yeux ardents, soulevée par deux porteurs qui la tiennent enveloppée dans sa couverture orange, non par égard pour elle, mais par dégoût de son corps. Elle marche presque, l'infirme. Elle a dégagé des plis de la laine deux effrayants bras de momie au cours des veines gonflées, et elle marche à force de volonté entre les hommes qui la soutiennent. Elle avance par soubresauts qui lui font mal. Et je la suis avec une infinie pitié. Laquelle de ces tombes ? Ah, celle-ci sans doute, vers laquelle elle a l'air de se diriger. Celle-ci qui est d'un bleu éteint avec des inscriptions d'or encore brillantes. Oui, c'est bien là. Elle se jette dessus, s'y cramponne à deux mains crispées. Pauvre vieux singe qui fait mal à voir et qui fait peur. Ensuite se retourne pour me crier, d'une voix révoltée, sauvage, aiguë, surprenante dans ce silence. « Burda, burda, Aziadé ! Ici, ici, Aziadé !» Il y a cela, sous-entendu que je comprends bien, et qui monte comme une lame. Et c'est toi qui y as conduite. Puis subitement, elle me prend les mains, et d'une voix toute changée, d'une voix de petit enfant, qui est douce, douce, comme pour me demander pardon, elle répète « Ici, ici, Aziadé, vois-tu, c'est ici qu'elle est à présent. » En même temps, une grimace à fendre l'âme contracte sa figure noire et un brusque jet de lame coule de ses yeux. Je baisse la tête, moi, mais pas une larme ne me vient. D'un geste machinal pour me découvrir comme on fait sur les tombes chrétiennes, je porte la main à mon front puis je la laisse retomber. J'oubliais quel costume j'ai repris pour venir ici. Le fess turc ne s'enlève jamais, même pas pour prier Dieu. Et je me penche sur le marbre, cherchant parmi les inscriptions enroulées que je ne sais pas déchiffrer, cherchant son nom, le vrai et l'aimé. Celui qui est gravé sur la grossière bague d'or qu'elle m'a donnée, celui qui est écrit aussi sur ma poitrine en petites lettres bleues, indélébiles. Mais comment donc suis-je redevenu tout à coup aussi calme, presque distrait? Il semble que je ne comprends plus rien, que je n'y suis plus. Mais qu'est-ce donc qui m'a fermé le cœur d'une façon si inattendue? Sans doute la présence de ces hommes, avec leurs yeux curieux, leur étonnement presque ironique. Tout ce groupe, tout cet appareil presque théâtral. Oh, il aurait fallu pouvoir venir seul. Ils ne devraient pas être ici, eux. Leurs regards, rien que leur voisinage, sont insultants pour le cher petit tombeau. Et s'ils devinaient tout, ce serait peut-être même un danger. Plus tard, pour la tranquillité de ce lieu, quand je serai loin, je reviendrai seul demain matin. J'aurai le temps encore, puisque le paquebot qui m'emmène ne part qu'à 3 heures du soir. Alors ce sera ma véritable visite. Mais aujourd'hui, allons-nous-en avec ces gens-là qui piétinent le sol et qui causent. Nous profanons tout. À elle qui dort sous cette pierre, je dis en dehors de moi-même, je viendrai seul te voir, pauvre petite. Je passerai la matinée de demain avec toi dans ton désert. Tu comprends bien déjà que je t'aime, puisque j'ai fait pour te retrouver tout ce long voyage. Pourtant, je regarde la terre, malgré moi, furtivement, la terre au pied de cette borne de marbre. Mais non, aujourd'hui, je ne veux pas penser à ce qui est en dessous. Je détourne la tête et, à force de vouloir me roidir, je me sens redevenu tout à fait impassible, l'expression dure. Seulement, je prends note des alentours avec une extrême attention pour ne pas me tromper de chemin quand je serai seul. D'abord, le long de cette formidable muraille sombre, qui a l'air de fermer le monde derrière nous, je compte combien de bastions carrés, depuis la porte par où nous venons de sortir jusqu'au lieu où nous sommes, puis je trace à la hâte sur un calepin des alignements, des silhouettes de cyprès, afin d'avoir tous mes points de repère assurés, je grave pour jamais tout ce lieu funèbre dans ma mémoire, afin de n'en plus oublier la route quand ce serait dans 10 ans, dans 20 ans, qu'il me serait donné d'y revenir. Je cherche même quelles petites plantes je pourrais cueillir demain et emporter avec moi. Presque rien, hélas, tant ce sol est aride. À peine 2 ou 3 imperceptibles feuilles épineuses et un frêle lichen gris. Je ne sais même pas si au printemps la moindre fleur de lande souffre sur ce tombeau. Allons maintenant, partons vite. Les porteurs replacent la vieille femme épuisée dans sa chaise. Je remonte à cheval et nous retraversons cette solitude au pas rapide, comme nous étions venus. Bien étrange en vérité, bien inattendu pour moi, cette visite si courte, si froide. Je m'en vais, plus amèrement triste, mécontent, inassouvi. Si cependant quelque chose m'empêchait de revenir demain, et si d'ici là quelque chose me foudroyait, jusqu'au moment où nous nous engageons sous les portes farouches de la grande muraille, je reste hésitant, je regarde derrière moi, tenté de revenir sur mes pas au galop de mon cheval. Quand Khadija est recouchée sur ses lacs, dans sa soupente noire, je congédie ses porteurs dont la présence m'était odieuse. De mon mieux, j'étends sur le corps de la pauvre vieille sa couverture neuve, qui lui fait tant de plaisir et qu'elle caresse avec ses mains à la manière des petits enfants en possession d'un jouet nouveau. Et maintenant, je voudrais l'interroger, elle qui est la seule au monde à qui je puisse parler, parmi celles qui ont vu, qui ont su, qui ont gardé dans leur mémoire tout ce que je tremble d'apprendre. « Oui, oui, » répond-elle, « je te dirai des choses, des choses. Un de ces jours, tu viendras causer avec ta Khadija, quand elle aura bien dormi, pour retrouver toute sa tête. Un de ces jours, mais je n'ai plus qu'aujourd'hui. Ah, Loti, reprend-elle en se redressant avec effort, tu sais pas, on m'avait chassé, moi. Mais ce Khadija n'est pas parti loin, tu penses, et pendant 2 nuits, Quand j'ai compris qu'elle bourrait, je me suis tenu dans la rue contre la porte pour entendre. On l'avait chassée. Alors que pourra-t-elle tant me dire? Quel renseignement confus et étrange pourrais-je tirer de sa vieille tête qui d'ailleurs me semble déjà égarée? Et Felsileanum, dis-je, tu sais ce qu'elle est devenue? Ah, Felsile, oui. Oh, elle sait beaucoup de choses, celle-là, hein? Peut-être bien, qu'elle viendrait ici pour te parler. Cette Felsile, une des trois autres femmes du vieil Abédine, je l'avais aperçue une seule fois, voilée naturellement. Mais je savais qu'elle était meilleure que ses compagnes pour Asiadée, presque serviable et bonne. Et il paraît que c'est la seule de tout ce harem dispersé qui soit restée à Constantinople où elle s'est remariée. Oh, s'il y avait moyen de lui parler. Il est vrai, j'espère pas du tout que ce soit possible. Et comment faire, bonne Khadija, pour la décider à venir ici chez toi? Un instant après, sur les indications de la négresse, j'ai été chercher dans un taudis voisin et j'ai ramené avec moi une très vieille femme à la figure sinistre d'entremetteuse qui a dû tremper au cours de sa vie dans plus d'une louche aventure. C'est sur cette personne que Khadija compte pour négocier l'entrevue, très agitée maintenant. Elle lui donne à ce sujet des instructions qui semblent assez précises et moi je promets une forte récompense. Le rendez-vous serait ici et pour cet après-midi, bien entendu, vers 7 heures à la Turque. Meuf, j'y compte si peu. Je voudrais interroger encore le Khadija, mais elle est de plus en plus épuisée et j'ai pitié. Je suis moi-même affreusement fatigué de cette matinée. Surtout, je pressens trop ce qu'elle va me dire en termes plus clairs, si j'insiste. C'est quasi Iadée est morte de mon abandon. Mais puisque c'est vrai, mon devoir est de l'entendre, et j'y tiens. Mais ce sera celle d'une fois, quand je reviendrai ce soir. Alors je me rappelle qu'on m'attend de l'autre côté de l'eau, et un peu lâchement, je m'en vais. Maintenant donc, il faut redescendre vers la Corne d'Or, prendre un caïque, passer sur l'autre rive, revenir à la place d'Al-Jihali où m'attendent Anaktar Shiraz et le landau et aller faire visite à une autre tombe. Assise à côté de moi, Anaktar Shiraz a dit au cocher « Va au cimetière arménien catholique de Chichli. » C'est très loin, paraît-il, et il fouette ses chevaux qui partent au trot rapide. Tournant le dos à Istanbul, nous arrivons de nouveau à Péra. Nous le traversons à toute vitesse, nous le dépassons, nous dépassons le faubourg de Taksim et nous voici dans une autre banlieue, bien différente de celle où Ziyadeh est ensevelie. Comme on les a couchés l'un de l'autre, mes deux pauvres petits compagnons d'Ayoub. Dans un cimetière catholique. Ah, en effet, je me rappelle à présent. Il m'avait conté qu'il était né arménien catholique et que plus tard, vers sa 15e année, il s'était fait musulman sous le nom d'Archmet. À sa dernière heure, il se sera souvenu du Christ. Quelle horrible banlieue que celle-ci, par contraste avec celle d'Istanbul, dont la tristesse est grande et superbe. Ici, c'est le côté où tous les gens cosmopolites de Péra viennent s'amuser au jour de fête. Dans une campagne sans arbres, sans verdure, absolument nue, s'étalent d'abord d'odieuses guinguettes de barrières arméniennes, grecques, juives, qui rappellent les mauvais alentours parisiens. Ensuite commencent des champs labourés dans lesquels votre voiture s'engage, région toute grise, couleur de terre, sans une herbe verte. Et enfin, sur une hauteur solitaire, paraît un carré de mur gris aussi, au-dessus desquels ne s'élève ni un cyprès ni un feuillage quelconque. C'est le cimetière de Chichli. Nous entrons. On dirait un cimetière de pauvres, un cimetière de suppliciés. Pas une fleur, pas une plante. Quelques rares petites croix de bois ou de pierre. Quelques plaques de marbre bien humbles, presque partout, de simples bosses de terre indiquant le gisement des cadavres. La vieille Arménienne s'oriente, choisit un sentier, se met à compter les monticules sinistres, 1, 2, 3, 4, et s'arrête à une place qui semble avoir été récemment bêchée. Le voilà, notre Achmet. Et ses bons yeux de vieille mère se voilent un peu au souvenir de l'enfant qu'elle avait soigné comme un de ses fils. Oh, le pauvre petit! Comme il est pénible à voir le lieu de sa sépulture. Je n'aurai pas le temps de revenir une seconde fois auprès de lui. Aussi vais-je lui dire mon grand adieu. De quel côté est sa tête? Ici, répond la vieille femme en se baissant pour toucher du doigt les mottes de terre. Et à la place qu'elle m'indique, je cueille pour l'emporter un petit trèfle chétif qui a poussé là, solitairement. J'ai dit au cocher de nous ramener grand train à l'hôtel. Un Akhtar Shiraz est assise à côté de moi dans le landau, et en route, je la prie de s'occuper, après mon départ, d'une plaque de marbre que je veux faire mettre au cimetière pour Achmet. Car une de ses grandes tristesses était, je me rappelle, de penser que s'il mourait avant d'être un peu riche, il n'aurait peut-être pas de tombe. Il n'est guère que midi quand nous arrivons à l'hôtel, toutes mes longues pérégrinations du matin n'ayant pas duré plus de 4 heures. Je fais monter chez moi l'Arménienne. Les gens de service, peu habitués à voir aux touristes de tels amis, la regardent, mais sans insolence, tant elle a l'air honnête et digne dans sa robe de deuil. Ayant tiré de sa poche de grosses lunettes, elle s'assied devant un bureau afin d'écrire toutes les instructions que je vais lui laisser pour cette tombe. Mais nous sommes interrompus par le juif Salomon qu'un domestique m'amène. Il vient me rendre compte qu'il a fait tout son possible pour retrouver Achmet et que personne ne le connaît plus. Oh, je le crois sans peine qu'Achmet est introuvable. Et depuis hier, depuis l'heure où j'avais envoyé ce Salomon au renseignement, que de chemin j'ai déjà parcouru dans la région des mornes certitudes, des tranquillités funèbres. À ce moment-là, tout était encore en troublante question. À présent, il semble que sur ces choses qui m'agitaient hier, une lourde pluie de cendres soit tombée. En caractères arméniens, Akhtar Shiraz a fini de noter pour elle-même ce que je lui ai recommandé au sujet de ce marbre. Et maintenant, nous avons terminé nos affaires ensemble. Il ne nous reste plus qu'à nous dire adieu. Elle se lève pour partir et elle me regarde avec ces mêmes bons yeux de mère que je lui ai vus tout à l'heure à Tchichli. Tandis qu'elle me remercie de ce que je fais pour le pauvre petit mort, de grosses larmes lui viennent qui pour un peu me gagneraient aussi. Puis elle me demande la permission de m'embrasser en s'en allant. Oh, je veux bien! Et de tout mon cœur pour Achmed, je lui rends son baiser sur sa joue ridée de pauvre vieille. À 8 heures à la turque, environ 3 heures de l'après-midi, je suis de rendez-vous chez Khadija. Auprès du grabat à couverture orange, où les pauvres effrayantes mains noires s'agitent, la femme de mauvais aspect à laquelle j'ai eu affaire ce matin se tient seule, debout. Tenzile Hanoum n'y est pas. Oh, je m'en doutais. Elle est absente, dit l'entremetteuse. Oh, je ne sais pas où elle est allée, oh, je ne sais pas pour combien de temps non plus. Et je vois tout de suite à ses réponses obstinément évasives, à son expression glaciale et fermée, qu'il est inutile d'insister. Cette Venzile, qui ne veut pas me voir, lui aura fait peur avec je ne sais quelle menace, ou lui aura donné de l'argent pour ne rien dire. Quand elle est partie, après m'avoir réclamé le paiement de sa course, Je m'assieds sur un escabeau au chevet de Khadija. Alors commence pour moi l'heure la plus cruelle de tout mon pèlerinage ici, l'heure du châtiment et d'expiation. Dans un entretien coupé de cris et de silence, m'efforcer de savoir et y parvenir à peine, tirer de cette vieille cervelle noire qui s'en va, qui est tantôt affaissée, tantôt prise de bruyant délire, tirer par petites bribes incohérentes les choses qui me glacent et qui me brûlent. Être arrêté à chaque minute par la pitié de l'avoir si fatigué, par le remords de l'avoir achevé peut-être en lui faisant faire ce matin cette longue course. Sentir entre elle et moi, pour augmenter encore le nuage obscur, les difficultés d'une langue que nous ne possédons ni l'un ni l'autre d'une façon parfaite. Et me dire pourtant qu'il faut profiter à tout prix de ce moment unique, parce que je vais partir demain, et parce qu'elle va mourir. Elle est le seul trait d'union qui soit encore à peu près vivant entre ma chère petite amie et moi. Quand on l'aura mise en terre, tout lien sera coupé à jamais. Ce que je ne ferai pas sortir aujourd'hui même de cette mémoire à moitié décomposée sera perdu pour toujours. En ce qui concerne la date, Khadija est d'accord avec la sœur d'Archmet. C'est bien cela, il y a eu au printemps cette année qu'Aziadé a dû mourir. Quant aux causes de sa mort, elles restent comme sous-entendues entre nous deux avec une délicatesse que je n'attendais pas. Elle évite de me les dire. Mais elle m'arrête par un regard d'étonnement et de douloureux reproche quand j'ai l'air d'insister pour les demander. Malgré des alternances d'enfantillage sénile, elle a gardé des côtés d'intelligence étranges et son cœur de pauvre vieille esclave n'a pas cessé d'être foncièrement bon. De plus en plus, je me prends pour elle de respect et puis de pitié surtout, de pitié pour tant de fatigues mortelles que je lui cause. Ainsi tu dis, bonne Khadija, qu'elle a espéré pendant plus d'une année. Espérer quoi, la pauvre petite ? Quelque chimérique retour avec un enlèvement peut-être, une de ces dangereuses aventures que je pourrais à la rigueur tenter aujourd'hui avec de l'or et de l'indépendance, mais qui jadis m'était si impossible. Et c'est au bout de ce temps-là seulement qu'elle a commencé à décliner beaucoup et à perdre ses couleurs de saine jeunesse, et à courber sa tête, et se croyant même oubliée et abandonnée d'âme pour toujours. Mais mes lettres, lui arrivaient-elles donc plus ? Bon, les lettres, répond Khadija. Je lui ai remis, attends, moi je lui ai remis jusqu'à la sixième. Et pourquoi plus les autres ? Les autres, dit-elle, dans le feu. Je les ai jetés dans le feu. Puisqu'on m'avait chassé, moi, tu vois bien, je ne pouvais donc plus les lui porter. Et de les garder, j'avais peur. À la façon dont elle a prononcé « dans le feu », je comprends qu'elle les considérait à la fin, ces lettres, comme petites choses mensongères et maléficieuses, causes indirectes de malheur. Quant aux lettres d'Aziadé, Khadija est sûre de m'en avoir fait passer quatre, mais pas une de plus. Et c'est bien ce que je croyais. Les quatre premières, celles qui lui ressemblaient, celles où je retrouvais ses chères petites pensées, exquises avec leur ton drôle de pensée d'enfant sage. Les suivantes, alors, ces lettres quelconques, banales ou invraisemblables, comme les dernières d'Archmet. Mais de qui me venaient-elles ? Quelle main inquiétante me les avait écrites et dans quel but ? Cela restera toujours un mystère, et d'ailleurs, qu'importe, puisqu'à présent tout est fini. Ce sont bien nos imprudences des derniers jours qui ont tout à coup ouvert les yeux au vieil Abedine sur notre longue intrigue impunie. Et ensuite sont venues les délations des autres femmes du harem qu'on a interrogées et que les menaces ou les promesses ont fait parler. Aziadé n'a pourtant point été renvoyé de chez son maître, ni maltraité. mise à l'écart seulement, comme chose impure, reléguée et murée dans le silence de son appartement, où n'entraient plus que des servantes hostiles. Au bout d'un an, Khadija elle-même s'était vue fermer la porte de ce logis sombre, comme suspecte de relations avec l'écrivain public et avec la poste française de Péra. Et c'est alors que la lente agonie avait réellement commencé, avec la fin de tout espoir. Je ne crois pas qu'une créature très jeune et d'un beau sang neuf, qu'aucune contagion n'a touché, puisse mourir de désespérance seulement si on lui laisse le soleil, l'air et la liberté. Mais là, cloîtré et à l'abandon. « Tu sais, dit Khadija, sa chambre donnait du côté de l'étoile, du côté du nord, et il faisait grand froid. Ah oui, je me rappelle, ces fenêtres aux épais grillages situées dans une aile de la maison que le soleil n'atteignait jamais. À dérober, je les regardais en passant dans cette rue oppressée de mystère, où n'arrivaient que très tard les rayons rouges et sans chaleur du couchant. Et je me représente si bien ce que devait être cet appartement, aujourd'hui anéanti par le feu, où la mort à tout petit pas est venue la chercher. Puis Khadija continue. L'hiver, toujours enfermée là, elle avait pris mal à cause du froid de cette chambre. Alors les autres dames lui donnaient d'hermène, oh vois-tu lotie. C'est surtout ça que je voulais te dire. On lui donnait d'hermène, dont je me méfiais bien. Mon Dieu, où étais-je, moi, pendant que tout cela se passait dans ce harem obscur? Si facilement on l'eût sauvée avec un peu de joie et de soleil, en l'arrachant de là. Dans quel coin du monde étais-je à courir, ne pouvant rien, ne sachant rien, tandis que l'âme de ma petite amie s'en allait en détresse, et que s'affaissait lentement son corps adoré, jusqu'à cette soirée de mai où, presque clandestinement, on l'a emporté. Encore quelques détails que je demande et qui me sont donnés à grand-peine, avec des gémissements de petit enfant ou des cris, car elle est de plus en plus divagante, Khadija, de plus en plus épuisée. Et moi aussi je suis épuisé par les choses affreusement pénibles que j'entends, et par la tension d'esprit qu'il me faut pour les faire jaillir, une à une, de cette tête de pauvre vieux singe presque mort. Entre l'effroi d'interroger davantage et le désir de savoir plus de choses, j'hésite. Je suis à tout instant près d'en finir, et puis je reste encore, me rappelant que cet entretien est suprême. C'est la dernière fois qu'avec un être un peu vivant, je parlerai d'elle. Allons, je crois cependant que sa torture a assez duré, et la mienne aussi d'ailleurs. Je sais à peu près tout ce que je voulais savoir. Je vais partir. À présent, il est tard. Tu t'en retournes à Péra, n'est-ce pas ? Demande-t-elle d'un ton câlin et persuasif, redevenue tout à coup la dégraisse aux petites manières rusées d'enfant, et impatiente que cela finisse, que je la laisse en paix. Je lui donne quelques louis d'or qui l'éblouissent et qui lui assurent un peu de bien-être pour la fin de ses jours comptés. Et puis je lui dis l'adieu définitif, apportant d'elle un pardon et une bénédiction attendrie. Elle va bientôt mourir, c'est certain. Ses yeux, qui après les miens étaient les seuls ayant regardé Asiyadé avec tendresse, vont s'éteindre et se décomposer. Cette image d'Asiyadé, qui persistait encore au fond de sa tête finissante, bientôt n'existera plus. Quand nous mourrons, ce n'est que le commencement d'une série d'autres anéantissements partiels, nous plongeant toujours plus avant dans l'absolue nuit noire. Ceux qui nous aimaient meurent aussi. Toutes les têtes humaines dans lesquelles notre image était à demi conservée se désagrègent et retournent dans la poussière. Tout ce qui nous avait appartenu se disperse et s'émiette. Nos portraits que personne ne connaît plus s'effacent, et notre nom s'oublie, et notre génération achève de passer. Je m'en vais lentement par la petite rue délabrée et déserte. À quelques pas de là, je reprends mon cheval, qu'un enfant promenait au rond autour d'une place solitaire. Il est trop tard pour retourner voir sa tombe. J'y passerai ma matinée de demain. Et je commence une voie de plus à errer sans but jusqu'à la nuit. Au crépuscule, tout à coup, je me retrouve sur l'immense plat de Mehmet ramené par le hasard. Alors me revient cette phrase de mon journal d'autrefois qui s'est gravée très singulièrement dans ma mémoire et s'est peu à peu liée pour moi à ce quartier saint comme si elle en était l'expression même. La mosquée du sultan Mehmet Fat nous voit souvent assis, Ahmed et moi, devant ces grands portiques de pierre grise, étendus tous deux au soleil, sans souci de la vie, poursuivant quelques rêves intraduisibles en aucune langue humaine. Eh bien, rien n'a changé sur cette place. Elle est restée un des lieux les plus turcs et les plus mélancoliques d'Istanbul. La mosquée s'y dresse, indéfiniment pareille à travers les siècles, avec ses hautes portes grises, festonnées de dessins mystérieux. Et alentour, sous les treilles jaunies des petits cafés, les mêmes vieux cafetans de cachemire, les mêmes vieux turbans blancs sont assis à cette dernière lueur du soir d'automne, fumant des narguilés tout en devisant de choses saintes. Alors je m'arrête au milieu d'eux, à cette même place, où il y a 10 ans, nous avons vu un soir paraître sur les marges de la mosquée un illuminé qui levait les yeux et les bras au ciel en criant « Je vois Dieu, je vois l'Éternel !» Ahmed avait secoué la tête incrédule, répondant « Mais quel est l'homme, Loti, qui pourra jamais voir Allah ?» En vérité, je ne sais pas pourquoi, cette halte sur cette place a marqué si profondément, parmi tant d'autres souvenirs de mon pèlerinage, ni pourquoi j'éprouve le besoin de la fixer ici, pour l'empêcher de s'en aller trop vite dans la fuite de tout, comme on retiendrait de la main un instant quelques légères choses flottantes emportées au fil de l'eau. Chapitre 6, samedi 8 octobre 1889. C'est le matin du dernier jour. Un épais brouillard gris est descendu sur Constantinople, rappelant les automnes du Nord. Comme hier, j'ai repris mes vêtements turcs pour ressembler plus à ce que jadis j'ai été, pour être mieux reconnu dans cette région des morts où je vais, par je ne sais quelles incertaines émanations d'âmes qui doivent regarder au-dessus des tombeaux. Et seul, cette fois, je chemine à cheval le long de la grande muraille d'Istanbul, seul infiniment sous ce ciel bas et obscur, seul aussi loin que je puis voir au milieu de ces landes et de ces bois funéraires. La muraille se prolonge à mesure que j'avance, se déroule toujours pareil dans les lointains de la campagne morte. Elle a l'air de soutenir, avec les milliers de pointes de ses créneaux, les lourdes nuées traînantes prêtes à tomber sur la terre. Elle est d'une sinistre couleur sombre par cette matinée sans soleil. Débris colossal du passé, elle nous diminue et nous écrase, nous et nos existences courtes, et nos souffrances d'une heure et tout le rien instable que nous sommes. En passant, je regarde les profondes portes ogivales par où personne n'entre ni ne sort, puis je compte avec soin les énormes tours carrées, jusqu'au moment où m'apparaît cette sorte de tertre que l'on m'a montré hier et sur lequel, au milieu d'autres tombes, est la petite borne bleue aux inscriptions d'or. Et quand je l'ai bien reconnue, la petite borne d'Aziadeh, j'attache mon cheval aux branches d'un cyprès pour m'approcher seul et me coucher sur la terre. Sur la terre rousse, légèrement brunée de pluie, où poussent de rares plantes grêles. À l'orientation de la borne, je sais la position du corps chéri qui est enfoui dessous, et après avoir bien regardé au loin, alentour, si personne n'est là qui puisse me voir, je m'étends doucement et j'embrasse cette terre au-dessus de la place où doit être le visage mort. Il y a des années que j'avais eu le pressentiment et pour ainsi dire la vision anticipée de tout ce que je fais ce matin. Sous un ciel bas et sombre comme celui-ci, je m'étais vu revenant dans ce costume d'autrefois pour me coucher sur sa tombe et embrasser sa terre. Et c'est aujourd'hui, c'est maintenant, ce dernier baiser. Et voici qu'il ne me semble plus que ce soit bien réel. Je me laisse distraire ici même par je ne sais quoi, peut-être par l'immensité du décor funèbre, par tout ce charme de désolation dont s'entoure et s'agrandit à mes yeux irresponsables la scène de ma visite à cette tombe. Cependant, à mesure que les minutes passent, effroyablement silencieuses, et tandis que les nuées lourdes continuent de se traîner au-dessus des grands murs sarrasins, je reprends peu à peu conscience des choses. Je souffre plus simplement. Je comprends d'une manière plus humaine et plus douloureuse. Le frisson me revient, le vrai frisson d'infinie tristesse. Des instants passent encore. Un peu de vent se lève, semant sur ce pays noir des morts, des gouttes de pluie fouettantes. Notre longue entrevue muette traverse des phases différentes qui semblent de plus en plus nous rapprocher l'un de l'autre. Maintenant, je suis tout entier à l'impression que nos corps sont de nouveau presque réunis, après avoir été tant séparés par les années, par les distances, par les courses à travers le monde, et par l'indéchiffrable mystère qui enveloppait pour moi sa destinée à elle. Je sens que nous sommes là, tout près voisins, séparés seulement par un peu de cette terre dans laquelle on l'a couchée sans cercueil. Et j'aime tendrement ces débris qui en ce moment me font l'effet d'être tout. Je voudrais les voir et les toucher et les emporter. Rien de ce qui a été asiané ne pourrait me causer d'effroi ni d'horreur. Les nuées grises se traînent toujours avec des franges plus sombres qui en passant jettent de la pluie sur la mort de campagne et sur la muraille immense. Maintenant, l'image d'Asiadée est devant moi, presque vivante. Ramenée sans doute par le voisinage de ces débris, au-dessus desquels a dû rester flottant, quelque chose comme une essence d'elle-même. Oh, mais vivante tout à coup, si vivante que jamais je l'avais retrouvée depuis le soir de la séparation. Je revois comme jamais son sourire, son regard profond sur le mien, son regard des derniers jours. J'entends sa voix, ses petites intonations familières, confiantes et enfantines. Je retrouve tous ces intimes et insaisissables petites choses d'elle que j'ai adorées avec une infinie tendresse. Alors rien d'autre n'existe plus, ni le grand décor, ni les ambiances étranges. Il n'y a plus rien qu'elle-même, et toutes mes impressions changeantes s'amollissent, se fondent en quelque chose d'absolument doux, et je pleure à chaudes larmes, comme j'avais désiré pleurer. De cet instant, j'ai l'illusion délicieuse qu'elle sait que je suis revenu là et qu'elle a tout compris. La notion m'est venue, furtive, inexplicable, mais ressentie, d'une âme persistante et présente. Alors l'amertume et le remords qui s'attachaient à son souvenir ont sans doute disparu pour jamais, et je me relève apaisé avec une tristesse différente. Tout à coup même sa destinée à elle me paraît moins sombre. Elle s'en est allée, elle, en pleine jeunesse, n'ayant eu que ce seul rêve d'amour, et le baiser que je suis venu donner à sa tombe, personne, sans doute, n'en viendra donner un semblable à la mienne. Au pied de la bande de marbre, parmi les petites plantes qui sont là, je choisis une des plus fraîches que j'emporte avec moi, puis encore j'embrasse son nom écrit en relief de marbre et recouvert d'or éteint, et je remonte à cheval, me retournant de loin pour la revoir au milieu de sa solitude, où fuit à perte de vue la haute muraille de Stamboul. Chapitre 7. Le soir, accoudé à l'arrière du paquebot qui m'emporte, je regarde comme il y a 10 ans s'éloigner Constantinople. Puis le crépuscule tombe comme un grand voile jeté sur tout, et à la sortie du Bosphore, dans la mer Noire, la nuit nous prend tout à fait. Et tout s'apaise, s'apaise en moi de plus en plus, tout s'éloigne, retombe dans un lointain plus effacé. Chapitre 8, janvier 1892, 10 ans après. Dans mon enfance, je me souviens d'avoir lu l'histoire d'un fantôme qui venait timidement le soir appeler de la main les vivants. Il revint ainsi pendant des années, jusqu'au moment où quelqu'un ayant osé le suivre, on comprit ce qu'il demandait et on lui donna satisfaction. Eh bien, ce rêve angoissant, qui pendant tant d'années m'avait poursuivi, ce rêve d'un retour à Constantinople toujours entravé et n'aboutissant jamais, ce rêve ne m'est plus revenu depuis que j'ai accompli ce pèlerinage. Et du côté de l'Orient, tout s'est apaisé encore dans mon souvenir, avec les années qui ont continué de passer. Ce rêve était sans doute l'appel du cher petit fantôme de là-bas, auquel j'ai répondu, et qui ne se renouvelle plus. Fin.